Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview.
José Bové, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes au sein de ces rencontres de l'écologie pour une conférence que vous avez donnée hier, Résistance et action non violente en temps de crise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait définir par crise aujourd'hui, de nos jours? Est-ce que nous y baignons, selon vous?
Je pense que à chaque... mon engagement me montre que depuis que je me suis installé paysan, j'ai agi parce qu'on a traversé différentes crises ou différents conflits et qu'à chaque moment, il faut être capable soit de résister, soit de proposer des alternatives, soit d'empêcher ces crises de s'aggraver. Donc je dirais que c'est pas un projet de vie. Mais en réalité, quand on est engagé, quand on a des convictions, eh bien, à chaque moment, il faut être capable de pouvoir réagir.
Alors, on peut rappeler votre vie. Vous êtes paysan avant tout. Ensuite, vous étiez syndicaliste et homme politique français. Et ensuite, vous vous êtes retrouvé député européen jusqu'en 2019. Et là, vous en êtes parti. Vous expliquerez pourquoi, peut-être. Mais avant tout, il y a aussi ce livre qui est présenté à la librairie qui s'intitule « Hold up à Bruxelles ». Et là, ça pourra peut-être définir et décrire votre passage au Conseil européen, à l'Assemblée européenne, et comment se déroule cette mainprise de l'industrie agroalimentaire sur les produits de consommation. Donc,
c'est vrai que c'est parce que j'ai été paysan que je me suis d'abord engagé d'abord dans la lutte contre l'extension du camp militaire, puis ensuite dans le syndicalisme avec le syndicat travailleurs paysans, puis ensuite la confédération paysanne en 87, et qu'on a mené un certain nombre de combats contre à la fois les atteintes aux paysans, les dangers des pesticides et la destruction des savoir-faire paysans, notamment celle de la sélection des semences paysanne, avec la volonté d'imposer les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture par les semenciers. Et donc ça a été un combat très important, et ces combats je les ai menés à la fois en tant que paysan, mais j'ai continué à mener ce combat là aussi au Parlement européen, où j'ai été mobilisé sur ces sujets agricoles, que ce soit la politique agricole commune, mais aussi les OGM, les expertises, les accords de libre-échange. Et donc pour moi, tout ça fait partie d'un tout. Je ne sépare pas, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, ce que j'ai fait en tant que paysan, syndicaliste ou même député européen. Alors certains ont été surpris quand j'ai accepté d'aller au Parlement européen en 2009 mais en fait c'était logique pour moi. C'est-à-dire que tous les combats qu'on avait pu mener en tant que syndicaliste avec la société civile, c'était important pour moi de continuer ces combats au Parlement européen pour pouvoir faire bouger les lignes et pour pouvoir faire changer les législations autant que possible, et en même temps pour faire vivre la démocratie, parce que le Parlement européen est la seule élection qu'on connaisse qui se fasse à la proportionnelle intégrale, et où donc chaque pensée peut être représentée si les citoyens le désirent. Donc on n'était pas du donc pour moi c'était effectivement un lieu où on pouvait agir concrètement, je dirais de la même manière que dans le cadre de la société civile. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les deux.
Le titre « Résistance et action non violente en temps de crise », selon vous, est-ce que ces actions et résistances ont évolué depuis que vous avez commencé vous-même à démonter un McDonald's? C'était en 1999, donc plus de 25 ans sont passés. Quel est votre regard sur l'évolution de ces actions et de ces résistances du monde paysan face à... à l'agro-industrie?
Moi, je dirais que ça a même commencé avant, puisque donc, moi, je me suis engagé dans ce combat depuis, et cette forme de combat dès 71, dans le combat qu'on a mené contre l'extension du corps militaire du Larzac.
Oui.
Mais effectivement, on l'a continué ensuite sous différentes formes. Donc à chaque combat, il y a une autre façon d'agir. Il faut réfléchir, à la fois conscientiser, et une fois qu'on a conscientisé, construire le rapport de force pour essayer de gagner. Et donc il y a des actions, effectivement. Je dis souvent, pour une action qui dure 2 heures, il faut plusieurs centaines d'heures avant, à la fois de réflexion, de préparation, d'analyse. Et puis voilà, donc les choses doivent maturer avant que l'action se mette en place. Et au moment où on met l'action en place, eh bien, il faut essayer de faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible, et qu'il y ait une cohérence entre l'objectif qu'on veut atteindre et les moyens qu'on utilise.
Voilà, il y avait un débat à la suite de cette conférence hier, assez animé quand même, puisqu'il y avait 2 générations hein, qui se confrontaient, une dans le public, notamment avec l'intervention de Gaspard Dalens, qui participera cet après-midi à une conférence sur aux arbres citoyens, donc défense contre la déforestation. Mais il y avait quand même 2 positionnements, le vôtre étant la réflexion et puis le pacifisme, la non-violence dans les actions. Est-ce que face à cette évolution que l'on ressent aujourd'hui, est-ce que c'est dû aussi à un phénomène de pouvoir de plus en plus implacable?
Alors, je dirais que non. Après, ça peut être 2 analyses différentes, et moi j'aime bien. C'est pour ça que j'ai poussé le débat à aller dans cette direction-là hier, puisque je suis intervenu pour dire que je ne pensais pas qu'on pouvait agir en même temps de 2 manières différentes pour défendre un combat. Et j'ai pris l'exemple à la fois de Notre-Dame-des-Landes, mais celui aussi de Sainte-Soline contre les bassines, où je pense que la logique de l'affrontement peut être complètement contre-productive, à la fois par rapport aux citoyens qui ne participent pas, mais aussi dans le rapport de force qu'on veut construire. Et donc je pense que là-dessus, il faut être clair sur les stratégies, où on est dans une stratégie d'action non-violente, et c'est celle que j'ai toujours développée, et voilà, elle a sa propre logique, ou alors des actions complètement d'un autre truc, d'une autre façon. Mais je pourrais... Il y a un moment où on se pose le problème, c'est que sur la forme d'action, on ne peut pas prendre en otage des gens qui manifestent par des actions qui peuvent mettre leur vie aussi en danger. Que là, on a un vrai souci, quoi, et ça, c'est dangereux. Donc moi, c'est un peu ça que j'ai voulu exprimer hier. Et donc voilà, après, c'est un débat après de stratégie. Mais pour moi, un combat doit être stratégique. Et donc, l'objectif, c'est de gagner. Et donc, ça doit se faire d'une certaine manière.
Alors, il y a aussi cet aspect. Vous avez participé au Larzac, des actions aussi locales. Est-ce que, pour vous, les actions sont peut-être plus porteuses, plus fructifiantes au niveau local qu'au niveau du Parlement européen, pour faire évoluer?
Bah, je dirais que à chaque lieu... on peut combattre sur les mêmes thématiques. Alors, certains endroits, c'est très compliqué. Par exemple, au niveau de la société civile, si on se bat, par exemple, contre les accords de libre-échange, on fait surtout de l'explication, on fait de la formation, on essaye d'éveiller les citoyens. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait une décision politique qui soit prise pour que les éléments où l'accord est annulé, où il se met en place. Et là, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut être capable de pouvoir porter ça aussi dans l'arène politique. Donc, ce n'est pas honteux pour moi d'être élu et de pouvoir mener ce combat-là de la même manière où on peut mener le combat sur le terrain. Je dirais que c'est complémentaire.
Il y avait aussi « Le monde n'est pas une marchandise ». Ça, c'était un ouvrage que vous avez rédigé en l'an 2000. C'est consécutivement à quoi ce désir de ce livre? Ça annonçait quoi pour vous?
Le monde n'est pas une marchandise. C'est un livre qu'on a fait de débat avec François Dufour, mon collègue de la Manche, qui était aussi à la Confédération paysanne. Et ce livre faisait suite au démontage du McDo. Et on expliquait le processus qui nous a amené à contester l'utilisation des hormones en élevage, et comment ce combat ensuite s'est croisé avec un autre combat qu'on a mené contre la mondialisation et la naissance de l'OMC, et comment tout ça a entraîné une espèce de conflit où on ne maîtrisait plus notre alimentation. Donc c'était à la fois à partir de nos fermes et en même temps de la réalité du commerce international, comment ce commerce allait broyer toutes les agricultures locales des autres continents, et comment effectivement ce marché complètement dérégulé allait construire en fait une soumission partout sur la planète aux multinationales de l'agroalimentaire. Donc voilà, c'est ça le voilà.
Et là, l'agriculture bio est très mise à mal au niveau national. Il y a de plus en plus de désistements ou de suspensions de subventions. Quel est votre sentiment sur ce recul du gouvernement face à cette proposition bio pour les consommateurs?
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une offensive qui se met en place depuis plusieurs années. Pour aller à l'encontre. Donc il y a les lobbies, on a vu le lobby des semences, on a vu le lobby des pesticides, le lobby de l'agriculture industrielle, des multinationales de l'alimentation, qui, eux, voient leur business peut-être à un moment diminuer et qui se disent, il faut coûte que coûte qu'on continue. Notre but, c'est de faire du fric et c'est de dominer le système agricole mondial. Donc, je dirais qu'on a aujourd'hui un retour très fort de ces lobbies qui font en sorte qu'ils profitent d'une crise économique, moins de finances, pour justifier d'abord la diminution. Alors, ils viennent de faire... ils avaient décidé, par exemple, d'arrêter le financement de l'agence bio et de supprimer l'agence bio. Ils viennent de faire demi-tour, a priori, en disant « mais non, vous n'en faites pas, parce qu'il y a eu de la mobilisation ». Pour autant, c'est pas pour ça que les choses sont réglées, parce qu'on va voir ça aussi au niveau des régions, mais beaucoup d'aides bio avec la baisse des financements régionaux et tout ça, très curieusement, il y a deux cibles aujourd'hui, c'est la bio et la culture. Donc c'est une crise agriculturelle, je veux dire.
Alors cela amène un certain désarroi dans le milieu paysan, agricole, bio. Et quel est votre maître mot peut-être pour essayer de résister ou d'encourager aussi ce combat?
Je sais pas, je pense que déjà ceux qui sont engagés, ceux qui sont en bio, ceux qui essayent de travailler correctement, de vendre leurs produits, d'essayer de faire de la qualité, que ce soit en vente directe ou dans des filières plus longues, je pense qu'ils sont tous mobilisés. Je pense qu'il ne faut rien lâcher, au contraire, quoi. Et peut-être avoir encore plus de solidarité entre producteurs et demander aux citoyens aussi un soutien. Parce que moi, j'ai souvent dit que si les paysans et les consommateurs se mettent ensemble, ça fait plus de 120% de la population. Donc on est sûr de gagner. Simplement, il faut effectivement démarrer cette bataille et la mener ensemble.
Et pour vous, cela se concrétise actuellement?
Par moments, ça avance. D'autres moments, c'est plus compliqué. Oui. Actuellement, on est effectivement dans une situation où beaucoup de gens ont cru qu'après le Covid, les choses allaient évoluer dans le bon sens, que tous les bons exemples, les bonnes pratiques allaient continuer. Moi, j'étais plutôt méfiant. Après, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi spontanément ça se passerait. Donc il faut effectivement en permanence continuer, parce que les forces qu'il y a en face sont colossales, parce que c'est le business qu'on attaque. Et à travers d'autres formes d'agriculture, d'autres formes d'alimentation, effectivement, c'est aussi un choix de société. L'alimentation est un choix de société, la façon de faire de l'agriculture, c'est un choix de société. Donc tout ça est important. Même quand on se battait il y a 30 ans, déjà 40 ans, pour le droit de sélectionner ses propres semences en faisant le triage à façon qui était des outils très simples qui permettaient de trier les céréales pour pouvoir les ressemer. Et à un moment, il y a eu une volonté, il y a 40 ans de ça, de supprimer le droit du triage à façon. Et ça a été une des premières mobilisations qui était en parallèle de la lutte contre les OGM. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir ça, parce qu'on voit bien que sur une petite pratique agricole qui permet de garder la biodiversité cultivée, eh bien, là aussi, les lobbies ont tenté. Donc, il faut être sur tous les points en même temps, quoi.
Voilà, c'était ma question tout à l'heure aussi. Est-ce qu'on peut être plus agissant au niveau local plutôt que cet organisme qu'est l'Assemblée européenne, enfin l'Union européenne? D'ailleurs, selon vous, face à ces lobbies qui occupent très fortement cette administration, quel est leur point faible selon vous?
Souvent, les lobbies détestent la lumière. C'est un peu comme Dracula, ils n'aiment pas qu'on montre, qu'on les mette au grand jour, parce que quand ils sont au grand jour, ben effectivement, ça se passe mal pour elles, parce qu'on démasque leurs pratiques. On l'avait vu, par exemple, quand on a voulu interroger Monsanto au Parlement européen, ils ont refusé de venir. Refusant de venir, ben, ils se sont retrouvés dans une situation qui était intenable, et même ceux qui les soutenaient étaient embarrassés. Donc, je crois que c'est d'abord la mise en lumière du mode de fonctionnement, des prises de décision, tout ça, et puis de la façon dont les finances sont utilisées, etc. Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, il faut arriver à créer le rapport de force en termes d'opinion. C'est-à-dire que là aussi, à partir du moment où on a une majorité de citoyens qui se sentent engagés et qui disent « ça, on n'en veut plus », ben, effectivement, les choses bougent. On a obtenu, c'est comme ça qu'on a obtenu la fin de l'usage, par exemple, des hormones dans l'élevage, il y a plus de, maintenant, 35-40 ans. Mais parce qu'il y a eu une mobilisation et que les gens ont boycotté. Et donc, c'est le seul boycott qui a marché en France depuis cette époque. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, on est là, effectivement, complètement dans une autre logique. Et donc, il faut à la fois bien cibler le combat et en même temps, pour pouvoir créer le rapport de force, avoir une majorité avec soi. Et donc ça se conquiert et ça prend du temps. Mais une fois que c'est parti, eh ben effectivement, on peut faire beaucoup de choses, quoi.
Quel est votre regard sur cette évolution, justement, de cette résistance de la jeunesse d'aujourd'hui aussi, par rapport à cette occupation de plus en plus oppressante, même de l'industrie agroalimentaire? Bah, et peut-être aussi contre les bétonisations qui sont néfastes à la biodiversité. Et donc,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont, enfin, et de différentes générations, quoi. C'est pas une question générationnelle. Je dirais que c'est quelque chose qui.
Mais la jeunesse a un autre regard que le vôtre.
Elle peut avoir une. Oh, j'en sais rien. Je suis même pas vraiment sûr là-dessus. Après, on peut diverger sur les moyens d'action, sur les modes d'action, ça c'est possible. Mais sur l'analyse, je dirais qu'aujourd'hui, on a un recul suffisant avec plusieurs générations qui se sont mobilisées. Parce que, je dirais, par exemple, la bétonisation, je pense par exemple l'exemple de la côte méditerranéenne, tout ce qui s'est passé comme artificialisation, ça date des années 60-70. Et il y a déjà eu des mobilisations à cette époque-là. Nous, on a empêché, dans les années 70-71, la bétonisation de la côte aquitaine. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça se fait. Et on le voit un peu partout. Le recul de la bagnole, la problématique posée par les villes qui sont invivables et tout ça, c'est effectivement des choses qu'on voit venir et qui ont monté. Donc aujourd'hui, ça se cristallise. Voilà. Donc ça, c'est clair. Sur l'agriculture, la remise en cause du productivisme en agriculture et l'agriculture bio, ça a commencé il y a 50, 60 ans, 70 ans. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout au même niveau. Moi, je me souviens qu'au début des années 70, quand a été créé Nature et Progrès, on n'était quand même pas très nombreux, quoi. Hein. Aujourd'hui, l'agriculture biologique a pignon sur rue. Alors, c'est pas autant. On n'a pas encore trouvé le niveau critique de renversement de tout le modèle. N'empêche que, quand on est ici dans ce département, on voit bien ce que c'est qu'un département où la bio est effectivement, en termes de global, très forte, et y compris pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas simplement un choix de quelques personnes éclairées. Donc ça, c'est important. Et donc c'est ça qui est important. Donc petit à petit, je dirais que les prises de conscience... Alors en même temps, il y a des gens qui te disent « Mais on prend conscience, mais ça n'avance pas assez vite. » Ça n'avance jamais assez vite. Hein. Donc le truc, c'est de ne pas complètement non plus baisser les bras. Et c'est vrai que je trouve dangereux. Ce que je trouve le plus dangereux aujourd'hui, c'est plutôt de se dire « On ne peut rien faire. » c'est foutu, on va dans le mur, c'est le climat, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, qu'est-ce que je peux faire, c'est foutu, je suis... Et ça, c'est dangereux. C'est d'ailleurs qu'on n'est plus dans la capacité à se dire, je le fais, je ne sais pas si je vais réussir, mais je le fais quand même, quoi. Et c'est important et c'est fondamental, quoi. Donc il faut sortir du pessimisme. Je pense que le pessimisme aujourd'hui est effectivement un vrai danger et il est lié beaucoup à ce que les gens ont vécu aussi avec le Covid. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des siècles, on s'est retrouvé confronté à une épidémie. On a perdu. On ne sait plus ce que c'était que le choléra, ce qu'a été la peste pour des populations. Et aujourd'hui, les gens sont retrouvés dans une société ultra développée à vivre pendant des mois et des mois confinés. C'est un truc complètement invraisemblable. C'est un peu comme l'exemple de l'expérience de la famine. L'humanité, pendant des années, a vécu dans le manque plutôt que dans l'abondance. Et donc, on a perdu ça aussi. Mais donc, on a aussi des vrais risques. Et c'est peut-être qu'on se reconnecte aujourd'hui avec des risques fondamentaux de l'espèce humaine comme elle a pu le vivre depuis des millénaires. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut agir. Oui.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Perez, what's been happening, man?
I'll tell you what's happening. Business is not as usual. Your silence is violence. You're participating in ethnic cleansing. You're racist. You are the terrorist. You're complicit. Wake up! Olive trees, breaking fees, no Zata in Penny's meals. Drop the ball, did a crime, Penny's time to change your mind. Album white, can't deny, it's genocide, it's genocide. What a time to keep alive, they kill and hide and then they cry. Time goes by, we forget, time and time, the months, the years, the centuries, the apologies, the histories, in which peace do you believe and stop?
We are getting clear. The future is here. The future is here.
It's not.
We are getting clear.
Yeah.
The future is here.
It's here.
The future is here.
Let's go. Losing sleep, feeling sick. I can't pick. It's a trick. Feeling strong, feeling weak. Day by day, midweek. All the time, can barely breathe. The economy, it's reaching peak. It's every week, it's eating pig. And killed by money, we all bleed. It's all greed. In the west,
where?
In the east, it's a beast. We all need to freeze the seas. We can't believe it's all tears. And red seas and melon seas. It starts here beyond fear. I don't write, I don't rap. My mind's full and my heart is trapped. I have to speak, I have to seek. My people are stuck, my knees are weak. I'm spaghetti, they don't eat. They don't heal, they don't eat. ولك انا غزاوي عقلي عنيد ودمي تقيل
ها ها I got you
اذا بتعرف بتعرف
All right
انا لازم احكي عربي ايش اعمل لك
Let's go man
انا عربي يلا
We are getting clear the future is here the future is here We are The future is here. The future is here. We are getting clear. The future is here. The future is here.
It's not.
We are getting clear.
Yeah.
The future is here.
It's here.
The future is here.
Let's go.
Olivier Hamant, que j'ai reçu aussi hier, dénotait aussi la fluctuation climatique. Et je lui posais la question, est-ce que aujourd'hui des entrepreneurs envisagent aussi de modifier leur manière de fabriquer, de produire? Et il m'a répondu dans l'affirmative. Donc, est-ce que vous avez ressenti aussi cet intérêt pour certains lobbies qui seraient prêts à évoluer aussi pour le bienfait de la planète, de la Terre, mais aussi des consommateurs?
Alors, très curieusement, oui, j'ai rencontré, moi, des chefs d'entreprise, des cadres de grosses entreprises, soit de l'agroalimentaire, soit d'autres secteurs, et qui venaient m'interroger sur la fin sur la limite de la production, sur le fait que comment continuer à croître dans un monde fini. Et c'est la première fois que j'avais ce genre de discussion. Discuter une journée entière par écran interposé à travers toute la France avec un certain nombre de responsables sur ces questions-là. Et donc sur le fait de dire, ben, effectivement, notre modèle est en train de se terminer. Ce qui était quelque chose qui était déjà démontré en 1972 avec le rapport Meadows, qui montrait qu'on était dans la fin, dans la limite de la croissance et dans la limite, puisque la matière première était limitée, et donc il fallait trouver autre chose, quoi. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui, ceux qui veulent sérieusement le voir, ils le savent. Ce qu'on n'avait pas prévu à l'époque en 72, je m'en souviens très bien, c'était que on pensait vraiment que c'était sur la limite, et le fait que donc on pourrait plus exploiter de manière aberrante, en commençant le pétrole, mais tout le reste aussi, c'était la question du réchauffement climatique, qui à l'époque n'était pas du tout dans les... Toi, on ne le voyait pas, ça. Et si tu ajoutes les deux bouts, le gaspillage énergétique amène le réchauffement, nous, on disait, c'est bon, on va être obligé de changer, parce que de toute façon, on n'aura plus les ressources. Et là, aujourd'hui, on a à la fois les ressources qui vont manquer, mais le réchauffement climatique et l'utilisation de ces ressources de manière complètement débridée fait qu'on est sur une transformation radicale du climat. Donc voilà, donc là aujourd'hui on a une double alerte beaucoup plus là, et si on rajoute à ça la chute de la biodiversité, on est effectivement dans un cocktail qui peut être complètement qui peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut penser si on regarde qu'un seul des événements, c'est-à-dire le réchauffement et la fin des limites, etc., quoi.
Il y a l'aspect industriel donc de ces produits alimentaires transformés, aseptisés aussi, au point de peut-être fragiliser aussi les populations. Ça a été aussi démontré lors de certaines conférences. Quel est votre sentiment, justement? Est-ce que la paysannerie était justement cette possibilité de se nourrir du microbe aussi, de se renforcer avec la nature?
Mais écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a un vrai souci sur l'agriculture aujourd'hui par rapport à l'alimentation. C'est vrai qu'une grande partie des produits sont transformés ou super transformés, ce qui entraîne effectivement des déséquilibres alimentaires. Bon, tout le monde sait depuis longtemps déjà sur les risques liés à l'obésité, liés au sucre, liés au sel, qui sont en fait des choses qui incitent à manger encore plus et manger mal, quoi, des produits transformés ou ultra transformés. Et le fait de modifier aussi les modes de vie, qui modifient radicalement le fait que les gens utilisent moins en moins de temps pour transformer eux-mêmes leurs produits et les consommer en les cuisinant eux-mêmes chez eux. Voilà. Donc tout ça change effectivement radicalement. Alors moi, j'ai même vu des paysans aussi en difficulté qui allaient dans des zones céréalières, qui avaient même perdu l'habitude de faire un jardin et qui allaient au Resto du Cœur. Des agriculteurs en difficulté. Donc quand on en est à ce que des agriculteurs puissent se retrouver à aller au Resto du Cœur, tu te dis qu'on a un vrai problème, si tu veux, dans la culture. Donc, alors, le consommateur, n'en parlons pas. Donc on a aujourd'hui une vraie nécessité de rééduquer à l'utilisation des produits non transformés, que les gens se réapproprient leur alimentation. Et un, c'est un gain financier. Et deux, en termes de santé, c'est évidemment un gain colossal. Et c'est des dépenses en moins pour tous les la collectivité.
On peut se poser des questions, hein. Ça c'est peut-être de ma part, justement cette aseptisation de la nourriture, la fragilisation des personnes et l'industrie peut-être pharmaceutique. Est-ce que vous avez trouvé des rapports au sein de ce Parlement européen notamment?
Alors non. Enfin, non. Moi, personnellement, je veux bien reconnaître du cynisme dans les multinationales, mais de là à ce que, d'un côté, on mette tel ou tel type de produit pour être sûr d'ensuite de pouvoir vendre le médicament qui va les traiter, je pense que certains peuvent le penser, mais je ne pense pas qu'on en soit ce genre de situation. Parce que, effectivement, pourquoi pas? Ça serait du cynisme absolu. Mais que ça se passe parce qu'on ne fait pas le lien global entre la façon de produire, la façon de transformer et la façon dont les gens l'ingèrent et les conséquences que ça peut avoir sur leur santé, tout à fait. Hein, ça, c'est une réalité. Par contre, qu'il y ait une volonté machiavélique globale de le faire, là, on est plutôt dans le complotisme. Donc, il faut arriver à faire que les gens prennent conscience d'abord. Parce que les gens, en fait, toutes ces merdes ne se développeraient pas si les gens ne les achetaient pas. Donc, évidemment, on les incite parce que c'est facile, on a l'impression que c'est pas cher, alors que c'est très cher et c'est beaucoup plus cher que des produits de base.
Leur laisse-t-on le choix ?
Ben, le problème, c'est que c'est toujours le problème de la publicité et de la propagande. Parce qu'on est dans de la logique de propagande. D'ailleurs, la propagande a été utilisée au début du XXe siècle, le début de ce qu'on appelait la publicité, mais qui était en fait de la propagande, a été utilisée sur l'alimentation. Par exemple, pour utiliser aux États-Unis, ça a été vraiment un truc incroyable, comment on a inventé le petit déjeuner américain en faisant bouffer aux gens du lard le matin et des œufs, parce que les œufs aussi, l'industrie avicole avait été à la peine. Et ben, ils ont construit tout un modèle autour de ça et de la publicité avec des médecins, etc., pour inciter les gens à bouffer. Et après, on te dit, c'est un mode que tu as. C'est pas du tout un mode que ça a été inventé de toutes pièces. Et on peut dater l'année où ça a été fait, au milieu des années 20, quoi. Donc tout ça est tout à fait. Là, c'était complètement conscient. Donc là, c'est des lobbies qui ont construit un modèle alimentaire. Et ça a été même globalisé avec l'American Way of Life, qui est le slogan des années 30, avec l'apparition des cuisines, des frigos, tout ça. Le but étant pour les industriels et pas que ceux de l'agro, pas simplement ceux de ces équipements, mais en gros toute l'industrie américaine, on va dire le patronat américain, pour lutter contre les syndicats. C'est-à-dire que si les gens pouvaient accéder à bas prix à toutes des nouvelles façons de manger, des nouvelles façons d'être dans leur maison, eh bien, ils n'auraient pas besoin de lutter au niveau syndical pour changer le mode de vie. Et ça, ça a été écrit et structuré. C'est une pensée structurée qui a été construite. Donc, voilà. Là, oui. Là, on est effectivement dans des logiques, tu vois. Mais après, sur un truc plus individuel ou pas, voilà. Mais ça, donc, effectivement, il faut sortir de la pensée qui a été construite maintenant depuis longtemps. Hein, et qu'effectivement, quand chaque acte qu'on pose, chaque achat qu'on fait, que ça soit pour se transporter, que ça soit pour manger, que ça soit pour se loger, doit être analysé sur quelles sont les conséquences de son acte.
Hold Up à Bruxelles, c'est le livre que vous aviez rédigé, donc c'était en quelle année? Je ne sais pas, j'ai pas les... Mais,
2014.
Donc, 2014, merci. Pourquoi ce titre?
Mais c'était une façon de parler de tous les conflits d'intérêts auxquels j'ai été confronté quand j'étais à la fin de mon premier mandat. Et donc, effectivement, j'ai été confronté au problème des libre-échange, au problème de la PAC, au problème et aussi à l'industrie du tabac et au lobby du tabac qui a été capable de virer un commissaire européen qui voulait imposer le paquet neutre. Et l'industrie du tabac a tenté de l'empêcher en l'accusant, à tort, d'avoir essayé de monnayer financièrement pour 60 millions d'euros un changement de position. Et il a été viré à cause de ça. C'était mon adversaire politique, puisque c'était le commissaire en charge aussi de l'alimentation, donc des OGM, des additifs et tout ça. Et donc je le connaissais bien. Donc j'avais aucune raison, en fait, d'être sympathique avec lui. Voilà, c'était quelqu'un de correct, mais pas plus. Et il a été viré en 30 minutes par le président de la commission qui s'appelait Barroso à l'époque. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc bizarre. Et donc, j'ai démonté toute l'histoire et jusqu'à montrer comment, au niveau du président de la commission et de toute la direction, il y avait eu effectivement une volonté de l'éliminer en lien avec l'industrie du tabac et comment tout ça a été monté de toutes pièces avec l'aide en plus de l'organe de lutte anti-fraude du Parlement, de la Commission européenne. Donc voilà, donc ça et donc on a, et donc c'est pour ça qu'il y a la réédition de ce livre là ces jours-ci, enfin c'est l'année dernière, puisque l'année dernière, il y a un réalisateur qui a décidé de faire un film à partir de cette histoire précise qui s'appelle donc une affaire de principe. Et c'est Antoine Rimbaud, le réalisateur, et c'est Bouly Lanners qu'on voit sur la couverture qui me joue avec Thomas VDB, mon assistant, et Brunkel qui fait la stagiaire. Voilà. C'est un thriller de bureau, on va dire.
C'est ce qui vous a incité à quitter le Parlement européen aussi en 2019 ?
Ah non, j'avais dit que si j'étais réélu, j'avais fait un mandat. Au bout d'un mandat, on n'a pas forcément le temps de pouvoir tout faire et d'essayer. Et donc j'avais dit, je ferai deux mandats, mais je m'arrêterai au bout de deux mandats parce que je pense que c'est important là aussi que ça tourne. Personne d'abord, un est indispensable. Et puis laissons les jeunes, hein, parce qu'après on va te dire encore, c'est les vieux cons qui gardent le truc, donc c'est bon quoi. Et les vieux cons, ils ont le droit de faire autre chose aussi.
Vous êtes toujours producteur, vous-même ?
Ah non.
Vous avez pris votre retraite ?
Ah ben j'ai pris ma retraite déjà depuis pas mal d'années.
Oui.
J'ai cédé ma ferme quand je suis rentré au Parlement en 2009, puisque je savais qu'à la fin de mon premier mandat, je serais déjà à la retraite. Donc ça n'avait pas de sens de bloquer une exploitation agricole.
Je suis en ferme. Justement, la transmission de ferme, de terres agricoles, pour vous, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à défendre encore aujourd'hui ? C'est certainement sûr même.
Alors moi, chez nous, on n'a pas ce problème. Parce que sur le Larzac, on a deux structures foncières. Une qui s'appelle le GFA Larzac, où on gère 1400 hectares, et la Société civile des terres de Larzac, où on en gère 6300, et qui étaient les terres que l'État avait achetées pour agrandir le camp militaire. Et comme ça ne s'est pas fait qu'on a gagné, ils nous ont confié l'ensemble de ces terres en gestion collective, et donc on gère près de 8000 hectares maintenant de manière collective. Grâce au fait que le foncier ne soit pas en propriété privée, qu'on décide donc de ce qu'on fait des fermes, qu'on décide collectivement en assemblée de fermiers le prix des fermages, mais en même temps l'installation, la façon dont les fermes sont réparties, on a pu augmenter grâce à ça de 25% le nombre de paysans. Et donc c'est vrai qu'entre 1971, le début de la lutte du Larzac, et aujourd'hui, on a augmenté de 25% le nombre de paysans, alors que dans beaucoup d'endroits, c'est l'inverse qui se passe, et on diminue plutôt de 30, 40, 50%. Donc, ça montre quoi ? Ça veut dire que l'accès au foncier est fondamental, c'est la première chose. L'obligation d'acheter, c'est la pire des choses, donc il faut trouver d'autres structures qui permettent d'installer les paysans en dehors de la propriété privée. Et je dirais, troisièmement, ensuite, c'est la dynamique sociale qui crée l'installation. Et c'est donc pas l'économie qui est prépondérante, mais plutôt la dynamique sociale d'un territoire qui crée après les conditions que des jeunes ont envie de s'installer, envie de produire et de trouver des structures économiques pour pouvoir vendre le vivre de leur travail.
Une question me vient, ce sera la dernière. Est-ce que vous pensez, vu que l'argent est le fer, le nerf de cette agro-industrie, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver une alternative qui puisse convaincre aussi les populations ?
Écoute, j'en sais rien, franchement, j'en sais rien, parce que là, c'est très global. Oui. Tu vois, on est quand même à peu près, combien on est ? 7 milliards, 8 milliards à peu près d'habitants. Moi, j'ai pas de solution globale. Toi, partout. Donc, moi, je pense que des expérimentations sont possibles. Tu as des choses qui peuvent se créer à un niveau très local. Voilà, mais c'est au fur et à mesure, des fois, il faut s'inventer. Voilà. Je dirais que c'est tellement multifacette, les problématiques, qu'il faut essayer là où on peut. Et puis, en fonction aussi de ses goûts particuliers ou de ses choix, de ses engagements, d'essayer de trouver des solutions. C'est clair que la marchandisation du monde n'a pas de sens. Hein, le fait que l'argent soit devenu roi et encore plus roi qu'avant, et qu'effectivement on se rend compte qu'on a maintenant des oligarchies absolument phénoménales, mais je dirais là aussi on me dit voilà, aujourd'hui on n'a jamais vu une telle concentration d'argent autour par exemple de Trump avec Musk, tu vois, toutes les multinationales, et je dis c'est au début du XXe siècle on était pareil. Il y avait Rockefeller qui tenait tout le pétrole avec Standard Oil. Il y avait Ford qui imposait le modèle de l'automobile, etc., etc. Donc on avait déjà ce système-là. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment casser les monopoles. Ce qu'ont fait les États-Unis, après, quand ils ont cassé le monopole sur le pétrole de Rockefeller et d'autres. Donc tout ça, c'était une vieille histoire. Et les monopoles, c'est ce qui a amené Hitler au pouvoir aussi. Et donc ce qui a créé ensuite en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, une très grande crainte contre la logique monopolistique. Donc il faut garder aussi l'histoire et de se dire que ce qui est en train de se passer là peut amener des catastrophes, mais en même temps qu'il faut être vigilant et donc résister à ces nouvelles concentrations. Je dirais que ça fait partie de la logique d'accumulation de capital, de vouloir toujours croître jusqu'à une crise ou suite ou jusqu'à ce qu'il y ait effectivement quelque chose de catastrophique qui se passe, quoi. Et voilà, on n'y échappera pas, donc il faut rester lucide, il faut rester engagé et surtout pas céder au pessimisme.
José Beauvais, est-ce que vous avez un site internet ou...
Rien du tout.
Non, vous n'êtes pas trop dans le numérique.
Surtout pas. D'accord. Je ne suis pas du tout dans le numérique.
Vous avez une méfiance du numérique ?
Non, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que ça n'a pas de sens. Et j'ai été victime, quand j'étais au début au Parlement européen, sur Twitter, je crois, d'un faux site. Ça m'a mis 2 ans. Pour arriver à casser ce truc-là, il a fallu remonter jusqu'en Irlande pour arriver à casser le processus et donc dépenser de l'argent pour aller au tribunal pour avoir une obligation d'arrêt. Donc c'est complètement cinglé, quoi. C'est un monde de fous, quoi. Donc autant de paillettes, quoi. Donc je m'en suis servi des outils numériques quand j'étais élu pour faire partir de ce que je faisais et après j'ai arrêté.
José Beauvais, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps sur RDIWA et je vous souhaite une bonne journée.
Eh bien, merci à toi. Et bonne journée aussi et bonne continuation à la radio.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Thank you.